Da 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 da. Bonjour à tous et bienvenue dans cette embellie réalisée par Juliette Gou, préparée par Arnaud Jamin et mise en musique par Valentine Chédebois. À la technique ce matin, Anne-Laure Cochet. Porter son regard cette semaine sur un animal connu sous les noms de glouton, carcajou ou gulo-gulo, seule espèce du genre gulo. De la famille des belettes, il ressemble à un ours charmant, il est pourtant connu pour ses humeurs redoutables, lui valant le qualificatif d'animal le plus féroce du Grand Nord. Il en existe des arctiques et des boréales, alors je devance les reproches grammaticaux, le pluriel de boréal est boréo AUX ou boréal ALS, ce qui sonne mieux dans la phrase précédente. En anglais, le glouton s'appelle Wolverine et a donné son nom à un illustre personnage des X-Men. Notre invité est acteur, réalisateur, producteur, scénariste, compositeur, musicien, démiurge et roi, notamment sous le nom d'Arthur dans la série télévisée Kaamelott, dont l'adaptation au cinéma est sortie cet été, un premier volet qu'on peut voir en DVD et VOD en attendant la suite.
Eva Bester sur France Inter.
Bonjour Alexandre Astier.
Bonjour.
Bon, je commence frontalement. Hein. Êtes-vous content d'avoir été mis au monde ?
Voilà, vous commencez frontalement et donc vous vous heurtez au fait, au doute, puisque j'ai pas pu préparer la réponse.
Non, je vous crois pas.
J'ai pas pu préparer cette réponse-là. Est-ce que j'ai été content d'être mis au monde? Écoutez, oui, oui.
Oh oui, mais c'est un oui un peu désabusé.
Mais c'est un oui qui contient plein de petits noms, forcément. Oui. Parce que vous avez déjà répondu à cette question vous-même?
Moi, non, mais ce serait beaucoup moins intéressant si j'y répondais moi-même.
Que oui,
oui.
D'accord. Bon, bah oui.
D'accord. Bon, je ne vous crois pas à 100%, mais êtes-vous en bon terme avec vous-même? Comment se passe la cohabitation?
Je ne suis pas en bon terme avec moi-même, je ne cherche pas trop à l'être, j'avoue, parce que je ne fais pas un métier dans lequel être en bon terme avec soi-même est très gratifiant.
Ah oui?
Bon, non, c'est pas très malin. Il vaut mieux regarder tout ce qu'on a qui ne va pas, l'admettre, voire même l'écrire. Non, si j'étais en... Puis en plus, les gens qui sont en accord avec eux-mêmes, je ne les crois pas quand ils disent oui. Je pense que personne ne l'est et ce sera bien comme ça.
Bon alors, je vous ai demandé ce qui vous donnait envie de vous lever, Alexandre Astier, et vous avez répondu « je n'ai pas spécialement envie de me lever ». Alors, parce que vous êtes bien au lit ou par manque d'entrain existentiel?
J'en sais rien. Déjà, ça m'amuse cette question qui part du principe qu'on a envie de se lever.
Ah non, ça part absolument pas du principe qu'on a envie de se lever.
Si, puisque vous dites « qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever ?»
Pas pour savoir si quelque chose vous donne envie de vous lever, mais...
En l'occurrence, je suis pas sûr d'avoir envie de me lever. Mais j'ai vraiment réfléchi à votre question, c'est pas une réponse. Je ne sais pas si j'ai envie de me lever. Je préférerais rester couché souvent. Mais parce que effectivement, je suis bien dans mon lit, parce que je dors pas assez à mon goût, et puis parce que j'ai pas la folie d'aller faire des trucs.
Mais alors justement, faire des trucs, Alexandre Astier, vous en faites sans cesse des trucs. En fait, là, je pense à deux choses en même temps. D'un côté, j'ai envie de vous interroger sur le fait que vous êtes tout le temps en train de faire des choses, et de l'autre côté, sur la thématique suicidaire qui apparaît dans l'avant-dernière saison de Kaamelott, la série télévisée, parce que pour moi, ça va avec ça aussi, ne pas avoir envie de se lever. J'aimerais, mais en fait...
Ceci dit, le suicide, c'est quelque chose à faire aussi.
C'est quelque chose à faire, mais on le fait une seule fois, la première et la dernière fois, si on s'y prend bien.
Oui, oui, absolument. Donc, je sais pas trop quoi vous dire. Je sais que vous partez du principe que je fais beaucoup de choses. Par exemple, c'est une assertion, si vous êtes sûr de ça.
En fait, on le voit, c'est-à-dire que c'est concret quand on voit les séries, quand on voit les BD, quand on voit les projets en cours, quand on voit le film, quand on voit les films que vous avez réalisés, écrits, les Astérix, les spectacles que vous faites, oui.
Disons que, alors, bon, s'il y a quelque chose qui me donne envie de me lever, pour répondre à votre question précédente, ce serait d'aller jouer. Mais jouer dans le sens puéril du terme. C'est-à-dire d'avoir des jeux. J'ai jamais eu de période aussi heureuse que ma petite enfance où je jouais. Seul, j'insiste. Donc j'adore tester des trucs, j'adore les nouveaux machins, j'adore me lancer dans quelque chose que je connais pas, j'adore apprendre des trucs. Donc je me lève jamais mécontent si jamais je sens qu'il va y avoir un truc nouveau à tripatouiller, à chercher, à creuser, à démonter, à remonter, à essayer un nouveau machin. Donc en fait, pour tous les résultats dont vous avez parlé, les séries, les films, etc., je m'arrange pour que le parcours qui me mène du lit à ça, ce soit du jeu.
Vous y arrivez aisément ?
Pas tout le temps. parce que on peut pas tout le temps jouer. Les moments, c'est chiant.
Bah oui, souvent même.
Pas si souvent que ça, quand on peut se débrouiller pour que ce soit le moins chiant possible, mais c'est pas possible d'éviter complètement le chiant. Donc, il y a du chiant, mais disons que si je m'amuse pour la fabrication, pour le parcours, pour le chemin, je veux bien me lever.
Est-ce que vous jouez toujours au Lego ?
Absolument. Je me les fais souvent piquer par mes enfants, mais j'en ai toujours. J'en reçois même, Lego m'en envoie maintenant, ils sont gentils, mais j'en achète toujours énormément. Et puis j'en fais avec mes petits gamins, j'en offre à mes grands gamins, et puis j'en fais toujours moi-même. Oui, bah déjà parce que ça permet de penser un peu, Lego. Il y a un truc qui, vous savez, c'est un résultat parfait.
Comme les mathématiques.
Comme les mathématiques où vous lavez des vitres. Laver des vitres, par exemple, c'est classe de laver des vitres, parce que vous pouvez avoir une vitre vraiment propre.
C'est gratifiant.
Ouais, c'est moins vrai en lavant un vieux plancher. C'est toujours un vieux plancher, et tu pues toujours un peu, et toujours des merdes entre les petites lattes là. Donc je passerai pas ma vie à laver des planchers. Je veux bien passer ma vie à laver des vitres, mais des planchers non.
C'est plus gratifiant qu'écrire des scénarios par exemple.
Les vitres ?
Ouais.
Je pense que c'est pareil.
Ah, parce qu'écrire des scénarios, est-ce qu'on est sûr que c'est parfait à un moment ou à un
non,
autre ?
Non, justement. Effectivement, ça pour le coup, je pense que j'ai un esprit qui aime bien les résultats finis, et j'ai un métier qui est totalement imperméable au résultat fini. Ça n'existe pas. Musicalement, vous ne pouvez pas vous affirmer que vous avez fini votre orchestration, et vous pouvez toujours améliorer. Un texte, c'est pareil, un film, c'est pareil, la mise en scène, c'est imprécis. Le montage, que dire, ça fait 25 ans que je monte, on pourrait tout monter 2 ans de plus et ce serait toujours mieux. Il faut juste arrêter parce que les gens vous gueulent dessus, c'est tout. Donc, ouais, je sais pas. Mais à mon avis, je me suis gouré de métier. C'est pour ça que je veux pas me lever.
Je comprends.
Si je lavais des vitres, je me lèverais, je pense.
Dans un instant et jusqu'à 11h, il sera entre autres question d'instruction, de bac, de machine, de code, de Michael Chase Walker, d'Henri Verneuil, de Mondes Invisibles et de Cabane à oiseaux.
Le neige credo, le mort du frigo.
De Lumignanas, Laurent Garnier et Bertrand Belin. Au début, c'était le début dans L'Embellie sur France Inter. Nous sommes avec Alexandre Astier. Est-ce que vous aimez le monde dans lequel vous vivez ?
Ouais, je suis pas sûr, non, quand même. Faut pas déconner, non, je crois pas.
En tout cas, le domaine dans lequel vous aimeriez apporter des changements, là, dans l'immédiat, c'est l'instruction. Comment dans l'idéal ?
Comment, j'en sais rien. Parce que si j'avais une idée, je pense que je la donnerais. Je pense qu'il y a un truc qui va pas dans l'instruction. J'ai l'impression que les individualités sont un peu gommées et que je l'ai vécu, moi, au travers de certains de mes enfants et moi-même. J'ai vécu un collège affreux, terrible. J'étais malheureux comme les pierres d'aller là-bas, de me lever pour aller faire ça, de retrouver trop de gens pour trop de choses, pour cette façon d'instruire heure par heure sur des trucs qu'on n'a pas envie, c'est pas le moment, c'est pas le... Et on m'a dit plusieurs fois que je serais un bon à rien, que je ferais rien de ma vie, que machin, tout ça. Et en fait, c'est pas bien de faire ça. C'est pas chouette de faire croire que sous prétexte qu'on rentre pas dans ce système-là, on rentre dans aucun. Je suis rentré dans un milliard de systèmes derrière. Et j'y suis rentré plus intelligemment, en fait. Et mené par des gens qui étaient chouettes aussi. Et qu'on n'avait pas forcément besoin de les appeler profs ou pas de la même manière. Mais je pense que il y a des gens qui sont fragiles à l'école. Il y a des gens qui se font emmerder à l'école. Il y a des gens qui sont, il y a des gens qui bossent pas, qui arrivent pas, qui ont pas envie d'être là. Et ces gens-là souvent sont extrêmement intéressants. Et il faudrait trouver une manière d'instruire en disant t'aimes pas ce qu'on te raconte, t'as pas envie de venir, à trouver autre chose. Mais nous on trouve pas autre chose. Il y a trop de gens en France et à mon avis dans le monde entier qui se trouvent sur la touche. Parce qu'ils pensent qu'ils ne correspondent pas. Mais pour moi, c'est l'instruction qui ne leur correspond pas. Ce n'est pas l'inverse.
Pour revenir à l'aspect ludique que vous évoquiez tout à l'heure, Alexandre Astier, justement, vous avez une façon de vulgariser, d'apprendre et de transmettre, parce qu'en fait, les sujets dont vous vous emparez, c'est des sujets auxquels vous ne connaissez pas grand-chose au début, avant de vous en emparer. Je pense notamment à Bach ou à la vie extraterrestre, dans le sens au-delà de la Terre, pas spécialement avec des aliens, dans votre spectacle Exoconférence. Et puis pour Kaamelott, par exemple, vous vouliez sortir justement la langue des Chevaliers de la Table Ronde de la littérature.
Oui.
Pour la rendre accessible.
Oui, et puis parce qu'il existe dans les œuvres dites, je sais pas, médiévales ou d'époque, il existe un cliché qui est très français, qui sont les répliques dites d'époque. Ce qui est extrêmement curieux, c'est-à-dire que quand les gens vont voir un film comme Kingdom of Heaven ou des choses comme ça, ou Le Roi Arthur, ou Alexandre, ou des choses comme ça, ils entendent parler des gars qui parlent en phrases de bouquin. C'est-à-dire que ça, on est sûr que ça n'a jamais existé. Personne n'a jamais parlé en phrase de bouquin, parce qu'il y a la littérature, il y a les gens qui parlent. Ça a toujours existé. Et pour eux, dans l'inconscient collectif, ça, c'est réaliste. Et moi, quand je me pointe avec un parler populaire, normal, de tous les jours, mon concept, c'est censé être de décaler les choses et d'en faire... Alors que moi, je décale rien. Au contraire, je pense que je restaure quelque chose qui est beaucoup plus près d'une réalité supposée de l'époque... de la fin de l'Antiquité, parce que ces gens-là avaient un langage. Et quand vous voyez les tags qu'il y a à Pompéi ou choses comme ça, vous voyez bien que ces gens-là ont un quotidien et qu'ils ne s'embarrassent pas de faire des phrases alambiquées à chaque fois qu'ils veulent exprimer quelque chose. Donc j'ai eu l'impression de participer à restaurer un peu ce qui pouvait être le quotidien de ces gens-là, qui pour moi n'a absolument rien de décalé, au contraire. Ces films que je vous ai cités tout à l'heure, pour moi, sont décalés, parce que je suis absolument persuadé que personne n'a jamais parlé comme ça.
D'ailleurs, quand on lit, par exemple, la correspondance de Mozart, on se rend compte qu'il fait des blagues scatologiques à toutes les lignes et
absolument.
Qu'il pense qu'il se marrer.
Lui est dégueulasse. Et, et Bach, sa correspondance, elle est assez belle quand il s'agit de trucs très...
prosaïques.
Ouais, il y a une trivialité, il fait des commandes de pinard et de bouffe, on se dit qu'il mange, bon, après il a une grande famille, on sait pas s'il mange tout seul, mais bon, il fait des commandes de pinard, il fait des commandes de trucs, et puis il fait des rapports sur les orgues, parce qu'on lui demande d'expertiser des orgues, je me suis servi de ça pour le spectacle d'ailleurs. Donc il est très technique, extrêmement technique sur les trucs, et ça fait beaucoup de bien d'entendre parler ces gens-là, parce que moi quand j'étais petit, que j'étais au conservatoire, tous les jours je voyais les portraits de Bach, les portraits de Debussy, qui sont... dans leur mode portrait.
Avec leur brushing.
Absolument, et du coup, ils sont extrêmement intimidants. On a l'impression que c'est des gens qui ont une sévérité vis-à-vis de vous. Et puis, en fait, quand on se rend compte qu'ils ont des problèmes de fric ou de machin, ça les rapproche et ça permet de faire un petit pont entre eux et nous, quoi.
Alexandre Astier, vous êtes engagé contre l'illettrisme et l'innumérisme. Vous soutenez l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme créée en 2000. Ça concerne encore aujourd'hui 2 500 000 personnes âgées de 18 à 65 ans qui sont en situation d'illettrisme, c'est-à-dire 7% des gens entre 18 et 65 ans.
Absolument. Et c'est assez impressionnant parce que alors je suis autant ému par l'illettrisme en lui-même, par ce qui porte les gens à être passés à côté de la lettre ou du nombre, mais je suis aussi ému de l'espèce de bazar dans lequel ces gens-là se mettent pour essayer de cacher tout ça. C'est-à-dire que c'est comme les alcooliques, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont tout un tas de routines qui leur permettent de dire, dans des situations où ils doivent lire un truc, que sais-je, à la banque ou machin, qu'ils ont oublié leurs lunettes et qu'ils peuvent pas le faire aujourd'hui. Et en fait, ces gens-là sont rentrés, des fois jusqu'à des âges assez avancés, dans des routines qui leur permettent de survivre au milieu de tout ça. Ça me touche beaucoup, ça m'a toujours beaucoup touché, parce que généralement, c'est des gens qui sont passés à côté de l'instruction, voilà, et que du coup, ils ont généré une timidité vis-à-vis du texte, de tous les textes, hein, et des panneaux dehors, de tout ce qui leur indique comment vivre tous les jours, jusqu'aux choses plus compliquées, et puis jusqu'à la littérature. Et voilà, je pense que lutter contre ça, l'association dont vous parlez fait les choses très bien, et elle prend en charge tout autant la technicité de l'illettrisme que la psychologie de l'illettrisme, qui est complexe. En fait, il faut aider les gens presque contre leur gré, des fois. Il faut essayer de mettre la honte quelque part, la gêne quelque part. Il faut essayer d'avancer humblement sur ces choses-là. Et je trouve ça très beau, en fait. Je trouve ça assez beau.
Allez voir le site de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, ANLCI.
Je dois trouver quelqu'un qui me connaisse, qui en ait vu d'autres comme moi.
En vieux français, unicorne. En latin, unicornis. Au sens propre, qui a une corne? Unus une et cornus la corne. Animal mythologique semblable à un cheval avec une corne. N'est visible que pour ceux qui cherchent et qui est généralement prise pour une jument blanche, la licorne. Salut poupée, à tout à l'heure. Il est dangereux de se pencher.
Extrait du premier film d'animation produit par le scénariste et producteur américain Michael Chase Walker, La dernière licorne, sorti en 1982. On a choisi cet extrait car c'est l'un des rares que l'on trouve en français. Mmh. Mais j'imagine que ces travaux qui font partie de votre panthéon, Alexandre Astier, j'imagine que ce sont plutôt ceux en lien avec le scénario qui vous ont marqué.
Absolument. Bah, dans les années 2000, en fait, je me suis fait venir par correspondance un bouquin à lui qui doit s'appeler d'un titre...
Power Screenwriting.
Ouais, un truc très racoleur, très hollywoodien, où je me disais, bon, je vais voir un peu ce qu'ils fabriquent, comment est-ce qu'ils entrevoient la narration là-bas. Et c'était pas encore une littérature qui avait beaucoup atteint nos côtes, donc c'était un peu neuf, j'étais assez content, puis j'étais allé voir Vogler en Angleterre.
Vogler, ouais. Vous avez parrainé une masterclass d'ailleurs.
Oui, après je l'ai fait venir en France, ouais, il n'était jamais venu. Et pour ce qui concerne Walker, il y a eu vraiment un bouleversement chez moi. C'est-à-dire que j'ai lu son bouquin et je me suis rendu compte qu'effectivement, tous les films que j'avais vus pouvaient être mis dans 5 boîtes, 4 ou 5 boîtes, pas plus. Et que toutes les histoires qu'on pouvait raconter, en fait... il y avait des archétypes derrière ces histoires. Alors, ces archétypes ne nous protègent de rien. Il peut y avoir des films qui sont très mauvais et très bons avec le même archétype, bien entendu. Mais sur la structure des contes qu'on raconte depuis la nuit des temps, en fait, et sur les histoires qu'on raconte dans tous les pays du monde et partout, on a quand même des archétypes, des sur-archétypes d'histoires. C'est un premier truc qui m'a fait bizarre, parce que c'est un type qui encourage à comprendre les rouages de sa propre vie sous le jour du scénario. C'est-à-dire... ce qui vient de vous arriver là, que ça vous touche profondément ou pas, ou que ce soit une page tournée, c'est quel moment de votre scénario? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous approchez l'ordi? Est-ce que vous êtes au milieu? Est-ce que vous avez déjà fini votre acte 2? Est-ce que vous avez... Et du coup, j'avoue, cette littérature m'a foutu un grand malaise. En tout cas, un bouleversement. C'est-à-dire que je faisais des cauchemars à répétition pendant des semaines. Je me réveillais la nuit, je faisais des cauchemars qui impliquaient des trucs très durs, mes enfants qui mouraient, machin. Enfin, j'ai eu vraiment du mal longtemps. Parce que je crois qu'il y avait une petite transformation en moi, une autre façon de faire, c'est-à-dire que raconter des histoires, c'est en fait raconter la vie. Il y a une vérité en fait dans les histoires fausses. Elles doivent être. Alors il y en a qui parleront de plausibilité, mais je pense qu'il y a une histoire de. Elles doivent être justes, même si elles sont ultra inventées et que ça n'est jamais arrivé. Les histoires sont justes ou fausses. Et généralement, un film qui marche pas ou un Un scénar qui marche pas souvent, c'est que l'histoire est fausse. Alors on dira évidemment qu'elle est fausse, elle est inventée. Mais non, mais elle est fausse parce qu'elle sonne faux. Elle n'a pas assez compris ce que c'était que les rouages de ce genre de choses et pourquoi ces archétypes-là fonctionnent depuis toujours et en quoi est-ce qu'ils sont le reflet de ce qu'on est, tout simplement. Et du coup, ça passe à côté parce qu'il y a une technicité scénaristique qui vient se foutre dessus et qui rend tout artificiel. Alors qu'il y a des choses qui sont justes. Voilà, je trouve pas d'autre mot que ça. Et écrire juste, c'est Walker qui m'en a parlé par le truchement de son bouquin, le premier.
Et les cauchemars se sont arrêtés ?
Oui, parce que ce sont des cauchemars de transformation. C'est juste l'époque de la petite métamorphose, on en subit plein dans nos vies, hein. On n'en a peut-être pas 4, 5, 6, chacun comptera ce qui veut compter comme ça. Mais celle-là a été soudaine parce que je m'intéressais depuis longtemps à comment raconter les histoires. Et cette littérature-là m'a surpris, c'est-à-dire qu'elle a jailli plus qu'elle n'est arrivée lentement. Alors du coup, le contre-coup a été psychologiquement un peu difficile. Je me souviens que je me réveillais en sursaut et tout, que les personnes qui étaient dans mon lit se demandaient ce qui se passait. Et que j'ai eu cette petite période-là et c'est ce bouquin-là qui m'a donné ça.
Alors pour les auditeurs, je donne les titres. Pour Michael Chase Walker, c'est « Power Screenwriting, the 12 Stages of Story Development ». Et pour Christopher Vogler, c'est le guide du scénariste, « The Writer's Journey ». Premier menuet de la partita numéro 1 pour clavecin BWV 825 de Bach par le claveciniste américain Scott Ross pour introduire le loustique à qui Dieu devait tout selon Suran et que vous avez interprété dans l'un de vos spectacles, Alexandre Astier, tout comme cet air d'ailleurs, absolument. Que ma joie demeure, créé en 2012.
C'est mieux par Scott Ross, honnêtement.
Oh, écoutez, non.
C'est mieux par Scott Ross.
Est-ce que vous vous souvenez de votre rencontre avec Bach ?
J'étais tout petit, je devais avoir 7 ans, 7-8 ans. Et en fait, il y avait une platine, une espèce de gros machin, parce que je suis pas d'hier, moi, quand même, maintenant. Donc, il y avait une platine vinyle, un gros poste, comme ça. Et on avait, chez ma mère, je ne sais plus comment c'était arrivé là, le concerto pour deux violons en ré mineur. Et je me souviens que je mettais les premières secondes uniquement. Il se passe quelque chose. Alors, après, j'ai appris la musique, donc je comprends maintenant ce qui me touchait à ce moment-là, mais à ce moment-là, je ne le savais pas, je ne mettais pas de nom dessus. Et il y avait, dans ces quelques secondes, cette fameuse transposition qu'il y a dans les fugues, en fait, dans la matière fuguée, ce truc de reprendre la chose plus haut, etc. Et j'étais fasciné par ce bout de machin-là.
Et par ces variations.
Oui, mais j'allais pas très loin. Je suis pas un grand explorateur des choses, moi. Quand j'ai quelque chose que j'aime bien, je préfère voir un film 100 fois que 100 films. Je suis plutôt ce gars-là. Et là, j'étais sur quelques secondes où il se passe harmoniquement quelque chose d'un peu particulier, effectivement, qui est dans le début des fugues, généralement dans toutes, mais je le savais pas. Et ce truc-là me fascinait. Je sais pas pourquoi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand il y a des gens qui vous disent il faut Bach, il faut des clés, il faut une culture, il faut un truc, il y a des tas de gens qui détestent Bach parce qu'ils trouvent ça d'une austérité consternante, etc. Et ben, je suis assez étonné parce que j'avais pas de clés pour être bouleversé à cet âge-là, j'en avais pas. Et quand bien même j'en aurais eu, je ne pense pas qu'il y ait une quelconque mécanique intellectuelle qui vous permette de rentrer dans quoi que ce soit d'artistique. Le beau, c'est tout, il est là. Et du coup, depuis, je dis qu'il ne faut pas de clé. Je dis qu'il n'y a pas besoin de clé, il faut juste écouter. Mais tout le monde n'est pas d'accord.
Quels sont vos rapports actuels à Bach ? Est-ce que vous l'écoutez souvent ? Qu'est-ce qu'il suscite chez vous quand vous l'écoutez ?
J'écoute d'ordinaire rien qui soit en fond de quelque chose. Je suis très admiratif des gens qui sont capables de travailler en écoutant de la musique, de faire d'autres choses. Je suis incapable de faire quoi que ce soit s'il y a de la musique qui passe. C'est pour ça qu'il y a des endroits qui me sont très difficiles, comme les restaurants où la musique est trop prépondérante, ou les magasins, parce qu'en fait, j'ai envie de dire aux gars, soit j'écoute ça, ok, si vous tenez à me le faire écouter, je vais écouter, mais je vais arrêter de bouffer. Mais si vous me le mettez aussi fort dans la tronche, c'est que j'ai quelque chose à en faire. Je ne comprends pas comment est-ce que vous arrivez à faire toute votre journée des fois dans les magasins de fringues, c'est ouf, c'est super fort et tout. Et je pense que voilà, je n'arrive pas à écouter la musique plus autre chose. Mais Bach, c'est encore pire. C'est-à-dire que Bach, en fait, je l'écoute pas très souvent parce qu'en fait, je peux faire que ça. Un peu dans ma bagnole. J'avoue que j'arrive peut-être à conduire et à écouter des choses. Mais dans une voiture, il y a des fréquences qui s'en vont parce qu'il y a la route, le goudron qui défile, ça enlève des notes. Mais je pense qu'il y a un truc de... Bach, c'est très rassurant parce que c'est imperçable pour moi. On peut écrire à la Bach, parce que scolairement, c'est très compréhensible. Bach, on peut vous l'enseigner, on me l'a enseigné, moi. Donc, je peux comprendre, je peux le relever en dictée, je peux écrire une copie. Mais le vrai Bach, celui qu'on entend, me reste toujours... J'ai l'impression, c'est assez rassurant parce qu'il sera mystérieux tout le temps. Il sera mystérieux jusqu'au bout. Et si jamais il y a un morceau qui finit par me gonfler, parce que je l'ai entendu 2 millions de fois, de toute façon, il y en aura encore un. Puis il y a l'art de la fugue, de toute façon, la dernière partie de sa composition qui reste, à mon avis, encore plus mathématiquement insondable. Donc, ouais, vraiment, il y a de quoi faire pour 30 vies sans s'ennuyer avec Bach.
C'est vrai que musique et mathématiques sont souvent rapprochées. Alexandre Astier, vous avez une formation musicale. C'est vous qui composez et qui arrangez à peu près toutes les musiques de toutes vos œuvres. Mm-hmm. Vous êtes entré au conservatoire à l'âge de 6 ans. Vous avez étudié la contrebasse, l'orchestration, les chœurs, la musique moderne à l'American School of Modern Music de Paris, tout en faisant du théâtre. Vous jouez de la flûte, de la basse, de l'orgue, du piano, de la viole de gamme, du clavecin, de la guitare électrique et même de l'oud dans Kaamelott.
Oui.
Je crois que vous faites tout au son, toujours. C'est ce qui dicte le rythme du reste. C'est pareil pour les dialogues, pour écrire une histoire.
Oui, oui, absolument. Je suis un gars d'audio, moi. Je suis un gars de l'audio. Donc, du coup, pour moi, quelque chose est juste quand il est rythmiquement juste. Quelque chose marche bien quand il a, surtout en comédie, cette particularité de l'avance, de la rythmique un peu tendue. Et c'est pour ça qu'il y a un poste que je ne lâcherai absolument jamais, c'est le montage. Parce que le montage, moi, j'ai vraiment cette sensation-là quand je fais un film, c'est-à-dire d'aller à la pêche pendant le tournage de choses. On va pêcher des scènes, pêcher des situations, pêcher des dialogues, pêcher des lieux, pêcher... Et puis on ramène le fruit de sa pêche à la maison, on met ça dans son disque dur, et puis c'est là que commence le travail pour moi en fait. C'est pas vrai, il a commencé avant, mais là il y a... c'est un peu comme aller au marché, ramener des aliments et commencer à faire la bouffe. Pour moi le montage c'est ça. C'est le moment où on peut tout louper ou tout réussir, et généralement, d'un point de vue du rythme, c'est là où les dialogues chope le rythme. Si jamais on va sur un plateau à moi et qu'on écoute les dialogues, c'est pas du tout le rythme qu'il y a au finish. Pas du tout. C'est bien plus rapide après. Les gens s'entrecoupent beaucoup plus qu'ils ne le font. D'ailleurs, je leur demande de pas le faire sur le plateau pour pouvoir le faire moi-même plus tard. Donc, pour moi, la chose prend vie et prend son rythme juste au montage. Et je me rends compte qu'en fait, si je trouve qu'un truc est juste rythmiquement, eh ben, je me débrouillerai toujours pour que l'image matche après. Je préfère accepter un défaut d'image ou de raccord, que de laisser passer une faute de rythme. Donc, du coup, c'est le son d'abord. Je monte au son, comme on dit. Voilà.
Computer Love de Kraftwerk, c'est la façon que j'ai choisie pour introduire certaines des choses qui façonnent votre rapport au monde, Alexandre Astier. Le code informatique et les machines en général. Alors le code informatique, vous le maîtrisez, j'imagine. Vous l'avez appris comment et pourquoi cet engouement ?
Je le maîtrise pas. Il y a des gens qui le maîtrisent bien mieux que moi. Non, moi ça m'intéresse en tout cas. Je l'ai appris tout seul. Vous savez, aujourd'hui, vous pouvez apprendre beaucoup de choses tout seul. Hein. Oui, c'est un peu laver des vitres, hein, le code informatique. C'est-à-dire qu'il y a comment arriver à un résultat, et puis il y a une petite enquête à mener, et puis il y a des outils. Que ce soit n'importe quoi, un script bash, un Python, peu importe.
Ce sont tous les langages de code, là.
Oui, ce sont des langages, bien entendu, qui correspondent plutôt à telle fonction, ou telle utilisation, ou telle machine. Je suis pas un bon codeur du tout. Mais c'est un monde dans lequel j'adore me plonger. C'est-à-dire qu'avoir un script vide et commencer à coder... D'ailleurs, j'aime pas trop les studios de codage, c'est-à-dire les applications qui sont faites pour avoir tous les outils préfaits, comme ça, avec des presets, avec des résultats. Non, mais j'aime bien coder sur rien, à partir d'un texte seul. C'est ça qui est beau dans le code. C'est-à-dire que le code, c'est ce qui vous rapproche de votre machine. C'est-à-dire que vous commencez à parler à l'ordinateur, alors pas tout à fait dans sa langue, parce que la langue d'un ordinateur, c'est des interrupteurs, en fait. Hein, c'est l'électricité qui passe ou pas. Bon, je parle pas l'électricité, tout à fait.
Ça peut venir.
Ça peut venir. Mais bon, en tout cas, vous commencez à parler un petit peu son langage. Alors que quand vous utilisez un ordinateur avec sa souris et son interface, c'est un langage qui est fait pour vous. Il est très, très humanisé. J'aime bien aller mettre le pas dans ce qui me rapproche de lui et ce qui m'éloigne de moi, quoi.
Vous semblez vouloir comprendre, décortiquer. Il y a un mot qui revient tout le temps, en tout cas, quand je préparais cette émission, c'était mécanisme. Je sais que vous démontiez des réveils pour comprendre comment c'était fait à l'intérieur.
Oui, et puis je suis pas le seul. Il y a des catégories de gamins qui le font. Il y a des catégories de gamins qui ne le font pas. Bon, bah, je fais partie des gamins qui faisaient ça, qui démontaient les trucs.
Et ça vous a appris des choses sur la réalisation, la photo, l'optique, la couleur ?
Bah oui, je suis un fou d'objectifs photo, je suis un fou de photo, je suis un fou de machines, de caméras, de micros, de mixage, d'instruments, de synthé modulaire. Je pense que la marque de l'homme, c'est l'ingénierie. Il y en a plein qui diront que ça l'éloigne de ce qu'il est lui-même. Et je pense que depuis qu'il y a un gars tout poilu qui a commencé à prendre un bâton pour casser un œuf ou une noix de coco, on avait le pied dedans. C'est-à-dire que depuis ce moment-là, on est des gens techniques et technologiques. Donc, je suis un peu technophile. Et d'ailleurs, ça m'éloigne de... Il y a des gens qui sont vraiment pas d'accord avec ça. Hein. Je pense qu'il faut qu'on vive dans un monde où il y a beaucoup d'énergie. Évidemment, il faut économiser l'énergie, mais il faut en fabriquer plus. Et il faut trouver une manière de plus en plus propre d'en faire, parce qu'on est des gens qui vont dépendre. Par exemple, on est en train de mettre une partie de notre histoire et de notre cerveau dans des serveurs. C'est l'électricité qui fait marcher tout ça. Et moi, ça me va très bien. J'ai pas peur de ça. Je trouve ça chouette. Simplement, il faut savoir qui on est. Voilà. Si le but du jeu, c'est de remonter dans les arbres et d'arrêter d'utiliser du papier toilette, je ferai pas partie de ça. Je n'y crois pas, en plus. Je pense que c'est pas nous. Je pense que c'est une erreur de penser que c'est nous.
Il y a une interview vraiment très chouette de vous et d'Axolot, qui a une chaîne YouTube. Et dans cette interview, justement, c'est suite à l'exoconférence, je crois.
Certainement, oui.
Et vous parlez de la vie en dehors du système solaire, de choses comme ça. Et puis à un moment, il vous demande si vous aimeriez vivre sur une autre planète. Et vous avez cette réponse assez belle, Alexandre Astier. Vous dites, en fait, ça m'intéresse absolument pas, parce que c'est vraiment dégueulasse de penser comme ça. Ça veut dire que toute la merde qu'on a faite sur la planète Terre, on voudrait aller la faire ailleurs, alors que c'est ici que ça se passe.
Ouais, après, bon, moi je suis pas super philanthrope, hein, c'est-à-dire que je suis pas persuadé qu'on soit une espèce très, très vouée à un long avenir. On peut être voué à un brillant avenir, mais long, j'ai pas l'impression. Il y a trop de gens qui pensent à l'inverse des autres, il y a pas de cohésion. Et c'est d'ailleurs chouette, parce que je pense que c'est ce qui fait aussi notre sel. Mais je veux dire, il y a des gens qui sont capables de vouer toute leur vie à tout dégueulasser, tout arnaquer, tout avec un cynisme complet, avec un changement, rien à foutre de rien du tout. Il y a des gens qui sont capables de perpétrer des génocides, et puis il y a des gens qui sont capables de passer toute leur vie à éviter que les génocides se reproduisent, à éviter que on salisse. Mais tout ça a lieu en même temps. Donc j'ai pas l'impression qu'on s'accorde tant que ça.
Si c'est de la musique, ce serait chaotique.
Je pense, oui. Et puis de toute façon, vous voyez bien, c'est-à-dire que là, il y a des gens qui disent c'est très important de faire ça maintenant. Et il y a des gens qui disent on est d'accord, mais ça se fait quand même pas. Ça se fera et ça se fait pas demain non plus, et pas après-demain. Alors qu'on dit mais c'est plus, on vous parle pas d'une urgence qui va venir plus tard. On vous parle d'une urgence dans laquelle on est déjà. Oui, mais quand même non. Voilà, donc je pense qu'on est foutu à très court terme, mais c'est très bien. Voilà, on aura eu une belle vie.
Allez voir l'horloge de l'apocalypse, chers auditeurs.
Was it love or nicotine that made us mellow on the 31st? It was penny paradise, just a pretty little lie, and it hit me when I saw you. Hand in hand, cold harbor line, never take it easy on the PDA. I don't miss you, at least not that way, but someone better want me like that someday. When you were mine, when
Joy Crooks, When You Were Mine sur France Inter, toujours en compagnie d'Alexandre Astier.
L'embellie. Eva Bester.
Je vais inviter la patronne à prendre un verre.
Elle dort, la patronne, tout le monde dort, allez.
Les manières se perdent. C'est jamais couché si tôt, Madrid. J'espère qu'elle me fera tout de même la grâce d'assister à mes débuts aux arènes monumentales.
Je lui ferai part de votre aimable invitation.
Il y aura du monde. Luis Miguel attire toujours la foule. Il y a longtemps que je rêve de triompher à Madrid. Le public sera exigeant. Surtout derrière Miguelito. Je vais être obligé de prendre des risques.
Eh ben, j'espère que tout se passera bien.
Je mettrai mon costume blanc, celui de mes débuts. Vous vous souvenez de cette noviada de Tolène? Ce vent froid, ce public affreux, et ce taureau qui voulait pas mourir. Moi, depuis, j'en ai stocké plus de 100. Je suis plus grand matador français, Gabriel Fouquet. Plus grand que Pierre Schull. Yo soy unico.
Pour être armé dans l'existence, tout le monde devrait voir le film Un singe en hiver d'Henri Verneuil, sorti en 1962, adaptation du roman éponyme d'Antoine Blondin, avec dans les rôles principaux Belmondo et Gabin réunis pour la première et dernière fois à l'écran. On est en 1944 et je vous laisse prendre le relais, Alexandre Astier.
Je crois que c'est un film sur deux gars qui veulent pas être comme tout le monde. Et alors eux, ça passe par l'alcool. Mais ils ont un alcool poétique, ils ont un alcool qui les emmène loin du monde dans lequel ils sont. Et c'est à la gloire de cette marge que le film est. C'est-à-dire qu'en fait, le film a un parcours qui les prend comme ça, comme Gabin qui est un ancien alcoolo. Et Belmondo qui est un nouvel alcoolo.
Ouais, suite à un chagrin d'amour.
Et en fait, ils ont l'alcool créatif, ils ont l'alcool grandiloquent, ils ont l'alcool. Alors Gabin, ça la ramène à son service militaire en Chine. Belmondo, comme on vient de l'entendre, ça l'amène en Espagne. Mais en tout cas, ils ont l'alcool souriant, rigolard, heureux, fraternel et aimant. Et d'ailleurs, ils se plaignent souvent des gens qui ne savent pas boire dans ce film-là. Des gens qui font de l'alcool un truc un peu pété, un peu tristou, un peu sans inventivité. Et du coup, bah, c'est quand même, quand vous avez fini ce film-là, vous avez vécu une histoire qui glorifie les gens qui finissent par dire merde au monde dans lequel ils sont tenus de vivre. Et qui repeignent tout. D'ailleurs, ça finit par un feu d'artifice. On va leur repeindre leur ciel, ce que dit Gabin. Et je pense que c'est important de voir un film dans lequel des gens qui sont en marge finissent par avoir raison et finissent par avoir le panache pour eux et laisser les autres derrière dans la tristesse et le gris.
C'est magnifique. Il y a eu évidemment quelques problèmes avec la commission de censure et le ministère de la Santé à l'époque.
Mais... ça m'étonne. Pourquoi? Parce qu'il faut pas boire. Il faut pas boire. D'ailleurs, je bois pas. Je ne bois jamais une goutte d'alcool et j'apprécie Un singe en hiver. Comme quoi, on peut voir le rêve plus loin que ça.
Alexandre Astier, en parlant de rêve, je vous ai demandé ce que vous aimeriez accomplir au cours de votre vie et vous avez répondu que vous ne trouviez pas de réponse à cette question. Mais j'ai l'impression tout de même, quand on lit vos interviews, que vous avez une vision d'ensemble de tous les projets que vous constituez peu à peu.
Oui, mais c'est pour ça que ce que j'aimerais accomplir dans ma vie, je sais pas trop. Je pense que j'ai la chance d'être dans la machine, sur le pédalier qui fait que ces choses-là, petit à petit, se fabriquent et ont lieu. Je vis pas dans l'expectative de trucs qui se feront plus tard, etc. Disons que j'ai des choses auxquelles je tiens, des histoires auxquelles je tiens, et c'est des petits bateaux comme ça que j'ai dans mon port. Et puis, je sais pas trop dans quel ordre ils s'en vont du port, ces trucs-là. La conjoncture, voilà, ça s'adapte. Il y a des trucs que je croyais qui partiraient d'abord, puis ils partent plus. Puis il y en a, je les avais oubliés, ils repartent. D'un coup, c'est comme ça. Ça, c'est la vie de la production et tout ça. Mais je ne rêverais rien d'accomplir, puisque, en gros, bah, je m'en occupe.
Voilà. Je vous ai demandé ce que vous aviez raté. Vous avez dit sûrement plein de choses, mais je ne vois pas les choses comme ça. Justement, l'échec, comment vous le voyez? Est-ce que vous le voyez comme beaucoup d'inventeurs et de scientifiques qui prennent ça pour un entraînement ou pour un pas de plus vers le résultat qu'ils espèrent, justement?
Je ne crois pas que les succès apportent grand-chose, en fait.
Mais c'est relatif, un succès.
Déjà, heureusement, c'est relatif. Mais je veux dire par là que quand... Il faut pas confondre ce que les gens considèrent comme un succès et ce que vous considérez comme un succès. Je considère l'exoconférence comme un succès, mais pas par le public qu'il a eu ou par le fait que ça a fait du bruit et tout ça, etc. C'est pour des raisons plus personnelles. Parce que ce spectacle, par exemple, constitue un changement pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, je pensais quelque chose avant de l'écrire, et puis j'ai étudié et j'ai rencontré beaucoup de gens, et puis après, je pensais autre chose. Et donc, comme j'ai fait un virage, je pense que j'ai fait mon métier. C'est ça qui fait que c'est un succès. C'est-à-dire que j'ai fait mon métier parce que j'ai pas menti avec moi-même. Un échec, qu'est-ce que ce serait? Quelque chose qui m'a échappé. Je pense que le pire échec, ce serait d'écrire quelque chose que je ne suis pas, ou qu'on m'aurait imposé, ou que, qui aurait été trop modifié par des idées qui sont pas les bonnes, ou pas les miennes, ou pas les... Et en fait, j'ai, comme je suis très méfiant là-dessus, et que je suis très gueulard, et que je veux pas qu'on touche à ce que je fais, je suis un petit peu protégé de cet échec-là. Ça veut pas dire que j'en ai pas d'autres, mais donc j'ai certainement raté beaucoup de choses, mais je n'appelle pas ça comme ça.
It's only recently with the development of ultra high speed cameras that we've had any idea of the incredible high speed performers hidden in humble horse poo.
Slowed down 10,000 times, we can see them hurtling through the air.
On vous a demandé, Alexandre Astier, quelque chose de beau à recommander aux auditeurs. Vous avez choisi la série documentaire Invisible Worlds de Richard Hammond, diffusée sur la BBC en 2010, et en particulier le passage sur la vision en ultraviolet des faucons cresserelles qu'on n'a hélas pas trouvé. Mais là, on entend un extrait consacré aux champignons.
Absolument.
Qui se développent sur les crottins de chevaux et qui envoient à une vitesse de plus de 100 fois la vitesse du son.
Absolument.
Des spores microscopiques dans l'herbe pour se développer.
Exactement. Alors pourquoi ? Alors je vais vous dire. Donc c'est sur les mondes invisibles, les mondes que nous ne percevons pas. Donc c'est très simple, vous avez le monde du microscopique ou du macroscopique, vous avez le monde qui se passe dans des gammes de couleurs que notre œil ne perçoit pas, et nous, vous avez les choses qui se passent trop rapidement ou trop lentement pour que nous les percevions. Voilà, ce sont trois chapitres. Et en fait, outre le fait que c'est extrêmement bien fait, passionnant, joueur, Richard Hammond, c'est un des trois de Top Gear original, que j'adore aussi. Et en fait, quand vous avez vu ces épisodes-là, ce qui vous en reste, c'est que les sens humains, l'œil humain, l'oreille humaine, etc., perçoivent très peu de choses. On perçoit les choses qu'on doit percevoir, parce qu'on en a besoin, mais il y a mille mondes qui nous sont totalement invisibles, et je pense que c'est bien de se rappeler ça aussi, c'est-à-dire que ce qu'on voit, ce qu'on sent, c'est une version parmi des milliards de ce qu'un autre être à côté de nous et qui a des sens légèrement différents peut percevoir. Et ça me laisse, à chaque fois que je le regarde, ce truc-là, ça me laisse toujours un sentiment de bien-être et de... Ça a élargi mon monde, ça a rendu les choses plus vastes, ça fait du bien.
Et alors, la vision en ultraviolet des faucons cresserelles, qui est l'un des rapaces les plus communs de France, avec la buse variable et le milan noir, mais je ne vous apprends rien.
Absolument. Ben, écoutez, c'est quand même absolument dingue, cette histoire. Ils perçoivent l'ultraviolet. Il se trouve qu'il y a des petites gerbilles, des petits rats qui pissent de l'ultraviolet. Ils pissent avec un petit pigment violet dedans parce que c'est pour se retrouver. Et il se trouve que cet oiseau-là arrive à voir l'ultraviolet du ciel. Donc en fait, il peut suivre la piste de ces petites gerbilles et les bouffer. Et vous me direz, comment ça se fait que nous, on voit pas l'ultraviolet? C'est quand même dingue. C'est parce qu'en fait, l'ultraviolet est un rayonnement puissant qui pourrait détériorer notre œil. Pour un faucon qui vit pas très longtemps, ça va. Mais pour nous, on peut pas l'avoir. Donc l'évolution nous a doté de filtres ultraviolet sur notre œil qui fait qu'on le perçoit pas. Sauf Claude Monet, qui a été opéré sur un œil de la cataracte. Cette opération a foiré. Je pense qu'en lui enlevant quelque chose, ils ont dû aussi lui enlever le filtre ultraviolet. Et du coup, à partir d'une certaine période, il peint plus bleu qu'il ne peignait avant.
Incroyable.
Bah oui.
Alors, il semble que vous nourrissiez un intérêt certain pour les oiseaux. Bon, je vous donne trois preuves comme ça. Déjà, l'extrait du documentaire de Hammond que vous auriez aimé qu'on passe. La chanson « À la volette, mon petit oiseau » dans la série Kaamelott, qui reste dans la tête d'Arthur. Pardon,
hasard
je vous l'ai remise.
Hasard total.
Et l'échange dans la saison 1 de Kaamelott de Arthur qui dit à Guenièvre « Je comprends pas comment on peut avoir peur des oiseaux ». Et elle dit « Parce qu'ils ont pas de bras
oui. ».
C'est affreux, j'ai toujours l'impression qu'ils vont culbuter vers l'avant, ça n'a aucun sens.
Je connais quelqu'un comme ça. Je n'ai rien inventé, je connais quelqu'un qui a peur des oiseaux parce qu'effectivement, elle a l'impression que si jamais ils trébuchent en avant, ils n'ont pas de bras pour se rattraper et qu'ils vont rester coincés, le bec planté dans le sol. Il est évident que quand j'ai entendu ça, j'ai sorti mon téléphone, j'ai pris ça en note et j'ai dit ça, excuse-moi, mais je vais me faire un peu d'argent là-dessus parce que je pense que ça va très bien marcher.
Alexandre Astier, justement, on arrive à l'engagement que vous acceptez de prendre vis-à-vis de vous-même ou de l'extérieur à la sortie de l'émission.
Oui.
Et c'est de déplacer votre cabane à oiseaux.
Oui.
Là, elle est accessible aux chats, c'est trop con,
oui.
Je vous crois pas.
C'est complètement con.
Mais pourquoi, comment un cerveau comme le
mais
vôtre?
Mais non, mais c'est pas ça. C'est que j'ai fabriqué cette cabane à oiseaux il y a des années avec mon fils Ethan. Ça nous a permis on a fait du bois, de l'huile de lin, des machins. Elle est très jolie d'ailleurs, cette cabane à oiseaux. Mais simplement, on ne lui a pas trouvé de place. Et c'est vrai que là, je la regarde, elle est au fond dans le cerisier, là, et je sais que mes chats sont des salopards. J'ai un chat russe. Je ne sais pas qu'il est russe, qu'il est salopard, mais...
un chat russe, c'est trop.
Mais non, mais elle est sibérienne, elle est gonflée en ce moment parce que c'est l'hiver, on dirait qu'elle fait 600 kilos, mais en fait, c'est que de la fourrure. Et en fait, elle, c'est totalement accessible, mais quel oiseau débile va aller se mettre là et faire une portée de petits oiseaux à proximité d'une sibérienne. Ah, mais c'est débile. Donc il faut, je m'engage, avec mon fils Ethan d'ailleurs, qui va m'aider, je m'engage à pendre ce truc à oiseaux. En tout cas, à l'abri des chats. Ce sera peut-être pas à l'abri de tout, mais ce sera à l'abri des chats.
Merci beaucoup, Alexandre Astier, d'être venu.
Avec plaisir.
Le film Kaamelott, premier volet, est disponible en VOD, Blu-ray et DVD. Chers auditeurs, toutes les références vous attendent sur le site de l'émission, tout comme nous sur les réseaux sociaux. Petite nouveauté sur l'application Radio France, si vous vous rendez sur l'onglet podcast, vous découvrirez une sélection des podcasts préférés de plusieurs producteurs de la maison, dont votre serviteuse, et ce mot ne semble pas exister, mais qu'employé à sa place, et depuis quand les médias parlent-ils uniquement de ce qui existe? J'espère que votre semaine sera aussi glorieuse que la victoire d'un champignon ayant réussi à se faire embaucher comme vestibule ministériel. Rendez-vous dimanche prochain à 10h10.